Bonjour à tous. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Quand on parle le dimanche matin, ce n'est pas toujours évident. Parce que déjà, il faut passer un temps de préparation. Et puis souvent, dans ce temps de préparation, eh bien, on se parle beaucoup et on prépare beaucoup pour soi-même. On apprend énormément de choses. Ce matin, les passages, ou le petit passage que j'aimerais partager avec vous, parle de choses que l'on observe beaucoup, que l'on voit de façon flagrante dans notre monde d'aujourd'hui. On voit aujourd'hui que beaucoup de personnes servent d'exemple, que ce soit des sportifs, des hommes d'affaires, hommes ou femmes d'affaires, des personnages de la vie politique, des stars, que sais-je encore. Et pourtant, des fois, dans les médias, on voit ces médias nous présenter ces personnages sous un autre angle, un angle bien moins avantageux, peut-être même assez étonnant pour certaines personnes. Un sportif ou une star peuvent être arrêtés pour détention de stupéfiants. On voit tout plein de choses. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a finalement un décalage entre là où les paroles et les actes. Et ça peut coûter cher. Ça peut coûter une carrière, ça peut coûter une sélection en équipe nationale, ça peut coûter un poste de ministre, ça peut coûter une fonction présidentielle. Et oui, faire ce que l'on dit et ensuite tenir parole, c'est particulièrement important pour nos hommes politiques, par exemple, les personnages qui ont une parole qui porte. Et il y a un petit proverbe ou une petite phrase que je pensais être un proverbe chinois, et en recherchant hier, je me suis aperçu que c'était une citation d'Emerson, un philosophe poète américain, qui disait la chose suivante: Tes actes parlent si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que finalement, dans notre monde, et ce n'est pas nouveau, eh bien, si nos actes sont en décalage avec ce que l'on dit, eh bien, nous allons être complètement inaudibles. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que les médias aujourd'hui sont en train de passer au peigne fin les premières actions de notre nouveau président et de notre nouveau gouvernement. Feront-ils ce qu'il a dit, ce à quoi ils se sont engagés ? Je ne vais pas plus loin là-dessus ce matin. J'aimerais partager un passage où il est question de penser et agir. Donc justement en relation avec ce que nous venons de voir. Nous allons voir le texte, la petite phrase que j'aimerais partager dans un contexte. Et ce contexte, c'est dans Philippiens 4, les versets 4 à 9. Et donc dans ce texte, il nous est dit la chose suivante. L'apôtre Paul commence en disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. » Et il continue « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et au verset 9, Paul dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Et donc c'est cette petite phrase, ce verset 9, dont j'aimerais que nous étudions un petit peu ou méditions ensemble ce matin. Et je vais vous le lire sous une forme là, dans Parole vivante, où il est dit « Bref, ce que vous avez appris et reçu de moi, mettez-le en pratique. Façonnez votre conduite d'après ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Donc l'apôtre Paul nous engage, ou engageait les gens qui l'écoutaient à ce moment-là, à faire quelque chose. Et il y a quatre verbes ici qui sont particulièrement importants dans ce verset 9. L'apôtre Paul parle d'apprendre, de recevoir, d'entendre, de voir. Apprendre, recevoir, entendre et voir. Et il les place tous ces verbes dans la même phrase pour former un tout. Donc il ne s'agit pas simplement d'entendre ou de voir sans apprendre, recevoir. Ça forme un tout. Et ça me fait penser un petit peu à un autre passage qui traitait de Paul aussi, dans Actes 17, au verset 21, où il était dit là que les Athéniens, quand Paul a rencontré les philosophes d'Athènes, ils avaient une particularité, ces personnes, qui étaient importantes à l'époque, qui avaient aussi une visibilité dans la société. Et il est dit là que tous les Athéniens, les étrangers demeurant à Athènes, ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter des nouvelles. Ils disaient, ils écoutaient des nouvelles. Ça n'allait pas plus loin. Tandis que là, l'apôtre Paul forme un tout en parlant d'entendre, de voir, d'apprendre et de recevoir. On voit, par exemple, dans le Nouveau Testament, autre chose, des gens qui ont entendu, qui ont vu, qui ont reçu la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 2, 13, il nous est dit que les Thessaloniciens recevaient la parole de Dieu comme la parole de Dieu. La parole de Dieu, et non la parole des hommes. À Bérée même, ils recevaient la parole de Dieu, ils reçurent la parole, et ils examinaient chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc ils cherchaient à apprendre pour recevoir de plus en plus. Et après, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, on va le voir. Et donc, en lisant ce petit texte, juste cette phrase de Philippiens 4 au verset 9, quand j'ai lu ça, je me suis demandé, mais qu'ai-je appris des écrits de Paul ? Qu'ai-je reçu de l'enseignement de Paul ? Qu'ai-je entendu sur le parcours terrestre de l'apôtre Paul ? Qu'ai-je vu de la vie de Paul ? Alors bien sûr, vous pourriez commencer à prendre votre Bible et puis à feuilleter tous les écrits de l'apôtre Paul. Et je me suis dit, oulala, je ne vais pas faire ça. J'ai pris mes baskets, je suis parti faire un footing. Et tout en faisant mon footing, j'ai essayé de me remémorer ou de voir ce que j'avais retenu de l'enseignement de Paul. Vous pouvez le faire sous une autre forme, vous partez vous promener dans les bois ou ailleurs, prenez un moment tranquille, mais où vous n'avez plus de filet, plus de Bible ou de commentaires pour vraiment vous guider sur ce qu'aurait fait, appris, reçu, ou ce qu'aurait dit l'apôtre Paul. Donc essayez de voir et de retenir ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. C'est pas évident. Alors bien sûr, on peut commencer par voir, mais oui, l'apôtre Paul dans la Bible, dans la bibliothèque de 66 livres, il en a quand même écrit 13. Donc il a une partie conséquente de l'enseignement de la Bible qui fait partie de l'enseignement de Paul, donné par Paul. Alors, quand j'ai commencé à me remémorer les enseignements de Paul, bien sûr, il y en a un qui va presque de soi, en plus quand vous êtes dehors, dans la nature, et en plus en tant que scientifique, moi ce qui me marque beaucoup, c'est que Paul nous enseigne à faire de la science, à observer ce qui nous entoure et à tirer les bonnes conclusions sur Dieu, sur sa personne, sur sa puissance, sur sa divinité. Et donc Paul va aussi nous parler du Dieu créateur, même si ce n'est pas lui qui a écrit les actes, il nous parle du Dieu créateur. Il nous parle aussi... de la loi du péché qui règne en nous. Il nous parle des effets de l'amour de Dieu. Il nous parle de l'Église, de plein de choses. Il nous parle de plein de choses, finalement. Il nous parle, c'est celui qui nous dit qu'il a été crucifié avec Christ. C'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. C'est lui qui nous dit aussi que toute la Bible est inspirée par Dieu. Il nous dit plein de choses. Et pourtant, et on l'a vu aussi lors du message dimanche dernier, c'est un homme modeste. Il ne se met pas en avant. Il ne dit pas « Tu m'as vu, moi, avec tout ce que j'ai pu faire, je suis quand même... » Non, il se présente aussi comme le premier des pécheurs. Donc celui qui a besoin de la grâce de Dieu. Celui qui a besoin de la grâce de Dieu. Alors, je ne vais pas parcourir ces différentes caractéristiques ou ces différents enseignements, non. L'enseignement de Paul a été adressé à des églises ou à des personnes, on ne va pas le voir dans les détails. Ça nous parle de comment se conduire dans l'église, donc des choses assez pratiques, de persévérance dans le ministère, que finalement vivre aujourd'hui ou de son temps, c'est Christ, etc., dans les différentes. Mais ce que j'aimerais voir, c'est de façon plus conséquente et un petit peu plus détaillée, ce que Paul nous dit. Paul nous dit finalement dans Philippiens 4, verset 9, il est un exemple pour les chrétiens. Ce que vous avez appris et reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Donc, on va essayer de voir un petit peu en parcourant certains passages, surtout dans Philippiens, mais aussi dans d'autres écrits de Paul, ce qu'il a appris aux autres, ce qu'il a donné, ce qu'il a transmis aux autres, ce que les autres ont entendu de lui, ce qu'ils ont vu de lui. Et surtout, il dit, il ne faut pas que ça s'arrête là, il ne faut pas que ça reste théorique, il dit, pratiquez-le. Comme à un autre moment, il dit aux Corinthiens, mais soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc il ne dit pas soyez mes imitateurs parce que je suis quelqu'un de bien. Non. Il dit soyez mes imitateurs parce que moi-même, je prends comme exemple Christ, qui est l'exemple parfait, et donc qui est celui qui doit vraiment être le modèle. Et donc nous allons voir, et ceux qui rayonnaient autour de Paul voyaient Jésus à travers Paul. Ou devaient voir Jésus à travers Paul. Alors il y a quatre choses que j'aimerais partager avec vous ce matin, qu'on peut voir, ou quatre caractéristiques qu'on peut voir dans la vie de Paul. La première, c'est sa préoccupation pour les frères et sœurs. La deuxième, c'est sa lutte, son combat, ses difficultés pour atteindre ou pour aller à la perfection. Troisième chose, ce sont ses efforts pour sauver les perdus. Et une quatrième chose, ça va être sa joie dans la souffrance. Donc on va parcourir ces quatre points, mais en lisant beaucoup de versets bibliques. Parce que je pense que c'est clairement Paul qui peut nous parler beaucoup mieux que quiconque. Et donc c'est la parole de Dieu qui peut nous parler beaucoup mieux que je pourrais le faire. Et donc la préoccupation pour les frères et sœurs, si on commence par ça, parce que je pense que c'est aussi quelque chose que nous pouvons nous mettre en pratique, ça commence dans Philippiens 1, les versets 8 à 11. Dans Philippiens 1, alors il nous est dit, et ça montre un peu, Paul se préoccupe, il parlait aux Philippiens, de tous les Philippiens, de tous les Philippiens de l'église de Philippe. Et il dit dans Philippiens 1, 8, « Dieu m'en est témoin, je vous aime tous avec la profonde affection de Jésus-Christ. » Il a une profonde affection pour tous les Philippiens. Il n'en aimait mais aucun à l'écart. « Et voici ce que je demande à Dieu, dit-il dans ma prière, que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien. » Donc l'apôtre Paul prie pour les Philippiens qu'ils puissent continuer d'être enrichis par la parole de Dieu à travers Paul pour avoir une vraie connaissance, une compréhension parfaite du plan de Dieu et pour être capables de discerner ce qui est bien. Ô combien à l'époque ils avaient déjà besoin de discernement, combien aujourd'hui nous aussi nous avons besoin de discernement. Ainsi, dit l'apôtre Paul, vous serez purs, irréprochables au jour de la venue de Christ. Vous serez riches des actions justes produites en vous par Jésus-Christ à la gloire, à la louange de Dieu. Donc il leur dit, voilà, ce que je souhaite pour vous ardemment, c'est que vous puissiez grandir dans la connaissance, dans la compréhension, dans le discernement, produire des actions, donc pas seulement que ça reste uniquement une connaissance, mais que cela puisse produire des actions. Ça passe aussi à l'état pratique. À l'état pratique. Pour être justement pur, irréprochable, et nous allons y revenir quand on parlera de la perfection auquel l'apôtre Paul aspirait. Une préoccupation donc pour les frères et sœurs qui n'était pas seulement de façon générale pour toute l'Église, mais on le voit dans Philippiens 4, pour même certains et certaines en particulier. Même s'il était très occupé, Paul, il prenait quand même le temps de s'occuper de certains et certaines en particulier. Philippiens 4, versets 1 à 3, il est dit « Mes chers frères, je désire tellement vous revoir, vous êtes ma joie, ma couronne de victoire. Eh bien, mes amis, voilà comment vous devez demeurer ferme dans votre vie avec le Seigneur. Évodie et Saint-Tiche, je vous en prie, je vous en supplie, vivez en bon accord dans la communion avec le Seigneur. Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont en effet combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle, ainsi qu'avec Clément et tous mes autres collaborateurs dont les noms se trouvent dans le livre de vie. » Donc il va même jusqu'à s'occuper de personnes, vraiment au niveau personnel, des problèmes que certaines personnes pouvaient avoir. Il ne reste pas simplement général pour toute l'Église, mais au niveau spécifique de certaines personnes. Donc une préoccupation personnelle. Il y a aussi une autre préoccupation. L'apôtre Paul, au cours de ses voyages, il a passé dans bien des églises. Il a une préoccupation pour beaucoup d'églises, même pour toutes les églises. Dans 2 Corinthiens 11, versets 28 et 29, il nous a dit « Sans parler du reste, il y a ma préoccupation quotidienne, le souci que j'ai de toutes les églises. Si quelqu'un est faible, je me sens faible aussi. Si quelqu'un est détourné de la foi, j'en éprouve une vive douleur. » Donc il se préoccupait de tous ceux qu'il avait côtoyés, qui s'étaient tournés vers Christ, de toutes ces églises qu'il avait construites avec d'autres collaborateurs grâce à l'œuvre du Seigneur dans les cœurs. Et ça lui faisait mal de voir quelqu'un s'éloigner de la foi. Et puis, il se préoccupait aussi de ceux qu'il appelait qui sont faibles dans la foi, qui avaient des fois des difficultés. Et il y a trois passages pour décrire ou qui nous décrivent la situation. On ne va pas les lire tous en totalité, mais il disait finalement qu'il y a différents niveaux dans une église, tout comme il y a différents niveaux dans une équipe, et qu'il faut prendre garde aussi aux autres. Il faut que notre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les autres. Donc dans 1 Corinthiens 8, versets 8 à 13, il nous dit « Ce n'est pourtant pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Nous ne perdrons rien si nous n'en mangeons pas, nous ne gagnerons rien non plus si nous en mangeons. Cependant, prenez garde que la liberté avec laquelle vous agissez n'entraîne dans l'erreur ceux qui sont faibles dans la foi. » Prenez garde que la liberté avec laquelle vous agissez n'entraîne dans l'erreur ceux qui sont faibles dans la foi. Donc un message d'avertissement, de prendre garde. Dans Romains 14, il va aussi au point de dire aux Romains, Romains 14, verset 13, « Cessons donc de nous juger les uns les autres. » Finalement, c'est le Seigneur qui peut seul nous juger. Et il dit, là, Paul, « Appliquez-vous bien plutôt à ne rien faire qui amène votre frère à trébucher ou à tomber dans l'erreur. » Recherchons, verset 19, recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. Un vaste programme. Et l'apôtre Paul mettait cela en avant parce qu'il savait que si les gens écoutaient, voyaient cela, comprenaient cela, recevaient ces enseignements et les mettaient en pratique, ô combien alors les églises locales, mais aussi l'Église de Jésus-Christ, allaient bien allait être en bonne santé. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. Romains 15, il dit aussi, nous qui sommes forts dans la foi, nous devons prendre à cœur les scrupules des faibles. Nous ne devons pas rechercher ce qui nous plaît, il faut que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, pour le faire progresser dans la foi. Le Christ, en effet, n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Au contraire, comme le déclare l'Écriture, les insultes que l'on te destinait sont retombées sur moi. Rechercher, non pas ce qui nous plaît. On l'a déjà vu la semaine dernière. S'étendre, finalement, à faire ce que Jésus aussi aurait fait. Alors, la première, c'était le premier point, la préoccupation pour les frères et sœurs. Une deuxième chose que l'on peut voir dans la vie de Paul, C'est sa lutte, son combat tout au long de sa vie pour la perfection. Son désir d'abord d'atteindre la perfection. Là, on le trouve dans Philippiens. Dans Philippiens 3, les versets 8 à 11, il nous est dit, alors que Paul était un érudit de son temps, quelqu'un qui aurait pu se vanter d'avoir bien des diplômes, d'être passé par les meilleures écoles, il dit « Je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. » Il est clair là-dessus. « Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. » C'est par la foi au Christ que je le suis. Grâce à cette possibilité d'être juste créé par Dieu qu'il accorde en réponse à la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. Donc tout ce qui aurait été au niveau humain des plus, des avantages, les laisse de côté pour se concentrer sur l'essentiel. C'est connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ. Voir ce que Jésus voulait faire de sa vie. Apprendre toujours plus de lui. Recevoir toujours plus aussi de lui. Et ensuite agir pour les autres. Un deuxième point que l'apôtre Paul met aussi en avant, c'est un réalisme certain sur lui-même. Dans Philippiens 3 au verset 12, juste la première partie du verset, il dit, il est clair là-dessus, « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait. » C'est pour ça qu'aux Corinthiens, il va dire à un moment, « Soyez mes imitateurs, on l'a lu tout à l'heure, comme je le suis moi-même de Christ. » Il pointe vers Christ. Et pas forcément, ok, vers lui-même, mais il sait qu'il n'est pas parfait. Donc c'est à Christ qu'il faut aller. Mais il est clair, je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait. Alors, il aurait eu pas mal de raisons de tomber dans le découragement. Et des fois, quand on lit certains chapitres de l'Épître aux Romains, on se dit... Oui, il y a un cercle qui l'entraîne toujours vers le bas et vers le bas, et il n'a pas l'air de s'en sortir. Et pourtant, si, il y avait un désir d'aller de l'avant. Hein. Quand dans le chapitre 7 de Romains, on lit la loi du péché qui est agissante dans tous les pécheurs, donc en nous également, il se dit, il finit en disant « Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais il peut rebondir parce que justement en Jésus-Christ, il y a une espérance. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc, alors qu'il est réaliste sur lui-même, il a une volonté d'aller de l'avant parce qu'il sait que Dieu lui-même va l'aider dans sa course. Dans Philippiens 3, au verset 12 à 14, il nous a dit... Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc il demande aussi aux autres d'être saisis par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix. Donc il n'est pas parvenu à la perfection. Non, non, pas au bout de son voyage. Mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi. Et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Donc, il va vers l'avant. Et il nous fait part que finalement, la vie chrétienne, son voyage vers la perfection, ça ressemble plutôt à une course, une vraie course. Dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 26, il nous est dit là, « Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, un seul termine premier. » finir avec dans le même centième, c'est quand même très rare de nos jours. Un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous, nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Donc il compare sa vie chrétienne à deux disciplines sportives, l'athlétisme et la boxe. En nous disant qu'il faut y aller, il n'y en a qu'un qui terminera premier, mais que si on veut vraiment jouer dans la cour des grands, ça demande une discipline. Il va falloir s'entraîner. Il va falloir répéter, se concentrer et ensuite appliquer. Ça demande de la répétition. Eh oui, demander à tout sportif, s'il veut vraiment être bon dans son sport, il ne va pas simplement se lever le matin de la course et puis se dire « moi j'y vais, c'est bon ». Non, il va répéter chaque mouvement, voir comment il peut s'améliorer. Ça va être une progression de jour en jour. Il va devoir se concentrer pour justement voir où, dans quel domaine peut-être de sa discipline il est moins bon, si c'est plus au départ, si c'est plus en milieu de course, franchir les obstacles s'il y en a. S'il faut boxer, c'est la défense ou l'attaque, etc. Et ensuite, il va devoir appliquer. S'il a répété, s'il s'est concentré lors de ses entraînements, et puis que finalement, ben, le jour de la course, il dit ben, « moi, je ne vais pas appliquer ben, », ça ne sert à rien. S'il ne va pas à la course, il ne terminera jamais premier. Donc, c'est là où on voit que cette petite phrase de Philippiens, ça peut aller loin. Et c'est vraiment un tout, il faut aller jusqu'à l'application. Et avec une chose aussi, c'est que l'apôtre Paul nous dit, et peut-être quelque chose qui, dans le sport, n'est pas valable toujours, l'apôtre Paul nous dit on peut toujours s'améliorer. Dans le sport, oui, on peut s'améliorer jusqu'à un certain stade. Après, avec l'âge, on commence quand même à régresser. Enfin, moi, j'ai plus l'impression de m'améliorer hein, sur certains niveau sportif. On peut toujours s'améliorer. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27, l'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Donc l'apôtre Paul vraiment s'imposait une discipline parce qu'il savait qu'il pouvait s'améliorer. Tant qu'il n'avait pas atteint le niveau de Jésus-Christ, et on ne l'atteindra jamais, il ne l'a jamais atteint, eh bien on peut encore s'améliorer. Donc il y a du pain sur la planche, il y a du boulot. Il y a du boulot. Une autre chose qu'on peut voir dans la vie de Paul, ce sont tous ses efforts pour sauver les perdus. L'apôtre Paul partage l'évangile en tout lieu. Dans la prison, sur un bateau, autour d'un feu, partout il va partager l'évangile. Il va dire qui est le Dieu et le Sauveur qu'il a racheté. Il va partager l'Évangile. Dans Philippiens 1, versets 12 à 18, alors qu'il est même emprisonné, il dit « Frère, je veux que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a contribué en réalité à la progression de la bonne nouvelle. C'est ainsi que tous dans le palais du gouverneur ou ailleurs savent que je suis en prison pour le service du Christ. » Là où il était, tout le monde savait que c'était parce qu'il était disciple de Jésus-Christ qu'il était emprisonné. Mais ce n'est pas grave pour lui. Et en plus, ça sert aux autres. En me voyant en prison, la plupart des frères ont gagné en confiance dans le Seigneur, de sorte que de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. Finalement, il dit, oui, moi, ça me permet d'évangéliser, de parler de Christ à pas mal de monde que je ne pouvais pas atteindre avant. Mais en plus, ça encourage ceux qui se trouvent dans des situations bien plus faciles que moi. Et là, on doit un petit peu réfléchir à notre situation aujourd'hui par rapport à toute l'Église persécutée. Combien ça devrait aussi nous placer dans une situation un peu similaire, c'est que on devrait gagner en confiance dans le Seigneur. De sorte que de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. donc ses efforts pour sauver les perdus. Il était même prêt à s'offrir en martyr si cela pouvait être utile. Dans Philippiens 2,17, il dit même que peut-être mon sang, sa vie va lui être ôtée, mon sang va-t-il être versé comme une offrande ajoutée au sacrifice que votre foi présente à Dieu. Si tel doit être le cas, j'en suis heureux et je vous associe tous à ma joie. Donc pour lui, ce n'est pas un problème. À un autre moment, il disait, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Il se fait serviteur des autres, l'apôtre Paul. Voilà ce qu'on peut voir aussi dans, tout au long de sa vie. 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23. Juste, je vais vous citer le début et la fin de ce passage. Il dit, l'apôtre Paul, « Je suis libre, je ne suis l'esclave de personne. Cependant, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible au Christ. Avec ceux qui sont faibles dans la foi, je vis comme si j'étais faible moi-même afin de les gagner. Ainsi, je me fais tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Je fais tout cela, ce n'est pas pour être simplement meilleur, pour accumuler de la connaissance ou être bien avec les gens, non. Je fais tout cela pour la bonne nouvelle, afin d'avoir part au bien qu'elle promet. Et puis juste avant, il nous a dit, s'il fait tout cela, c'est afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. C'est pour que des gens encore atteignent le salut. Une autre chose que l'on apprend de Paul au cours de sa vie, c'est qu'il endure bien des souffrances en tant que disciple de Christ. Il est passé par des moments difficiles. 2 Corinthiens 11, versets 23 et 27, on peut les lire. Et il parle à certains qui se mettent en avant par leurs actions, par ce qu'ils sont. Et Paul dit, mais ils sont serviteurs du Christ. Eh bien, je vais parler comme si j'avais complètement perdu la raison. Je le suis plus qu'eux. Et là, il se met à énumérer tout ce qu'il a vécu, et certainement il a fait un résumé plus que succinct. J'ai peiné plus qu'eux, j'ai été en prison bien plus fréquemment, frappé beaucoup plus qu'eux, en danger de mort plus souvent. 5 fois j'ai reçu des juifs la série de 40 coups moins 1, donc 39 coups. 3 fois j'ai été battu à coups de fouet par les Romains. 1 fois on m'a blessé en me jetant des pierres. 3 fois j'ai fait naufrage. 1 fois je suis resté un jour et une nuit dans les flots. Dans mes nombreux voyages, j'ai connu les dangers dus aux rivières qui débordent, aux brigands, les dangers dus à mes compatriotes juifs ou à des non-juifs. J'ai été en danger dans les villes, dans les lieux déserts, en danger sur la mer, en danger parmi de faux frères. J'ai connu des travaux pénibles, de dures épreuves. Souvent j'ai été privé de sommeil, j'ai eu faim, soif. Souvent j'ai été obligé de jeûner, j'ai souffert du froid, du manque de vêtements. Donc il est passé par des moments difficiles. Et pourtant il dit à ceux qu'il croise, à ceux qu'il écoute, que ça vaut la peine. Il ne regrette rien. Et même, il va plus loin, et ça c'est une autre caractéristique de la vie de Paul. Il partage sa joie en Christ malgré la souffrance. Premièrement, sa joie dans l'emprisonnement, et malgré l'emprisonnement. Philippiens 1, 2, 12, on l'a déjà lu tout à l'heure, ce qui m'est arrivé a contribué à la progression de la bonne nouvelle. Et donc, ça lui donnait de la joie. On va lire plutôt la fin. Les autres annoncent le Christ dans un esprit de rivalité, leurs motifs sont troubles, ils pensent augmenter ma détresse de prisonnier. Et il dit la chose suivante, verset 18, « Peu importe que leurs intentions soient inavouables, sincères, le Christ est de toute façon annoncé, je m'en réjouis. » Donc ce qui le réjouissait Paul, même en tant que prisonnier, c'est que Christ était annoncé, que l'évangile, la bonne parole soit annoncée. « Je continuerai même à m'en réjouir, » disait-il. On l'a lu tout à l'heure aussi, il était même heureux, prêt à offrir sa vie pour Dieu. Hein, « Peut-être mon sang va-t-il être versé, » nous avons lu. Mais là, il encourageait les autres que si ça arrivait, eh bien qu'ils soient malgré tout dans la reconnaissance et dans la joie. C'est fort. Il voyait aussi la persévérance comme un fruit de la souffrance. Il était prêt à aller, à passer par cette voie. Il dit aux Romains, dans Romains 5, versets 3 à 5, là, « Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience, La patience produit la résistance, à l'épreuve, la résistance, l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Donc, il voyait vraiment un fruit par tout ce qui lui arrivait. Il y avait un objectif et lui, ça le conduisait à beaucoup plus de persévérance et ça le conduisait même à se rapprocher de Dieu. Donc voilà pourquoi je pense, ou certaines, on pourrait parcourir beaucoup d'autres choses des épîtres de Paul, mais voilà pourquoi il dit finalement aux Philippiens ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi. Donc il a partagé beaucoup de choses avec les Philippiens, donc ils ont vu beaucoup de choses, comme on vient de le voir, et il leur dit, mais pratiquez-le, pratiquez-le. Dans Jacques 1, il nous a dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Paul, on a Paul vraiment qui vivait ce qu'il enseignait et ce qu'il disait. Sa vie, c'était un témoignage. On a lu aussi tout à l'heure Matthieu 7. Matthieu 7 qui nous dit, mais voilà, ce que vous entendez, on va reprendre le passage que Baptiste nous a lu tout à l'heure. Celui de Matthieu 7, oui, 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les paroles du Seigneur, et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Donc là aussi, on est appelé à entendre. On entend beaucoup de choses dimanche après dimanche, mardi après mardi, ou après toutes les réunions qu'on peut avoir. Mais combien de choses nous recevons? Combien de choses nous prenons le temps d'étudier, de passer du temps, de retenir et ensuite de pratiquer? Dans un but bien précis, ce qui est valable pour le temps de l'apôtre Paul est aussi valable pour nous. Afin, dans Philippiens 2, verset 15, il nous dit, on va déjà lire les versets, il nous a dit là, mettez en œuvre votre salut, déjà avant, si on commence les versets 12 à 14, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Et puis il nous dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. On n'a pas besoin de se sentir capable, parce que nous ne sommes pas capables, nous sommes pécheurs. Mais, dans un but bien précis, le verset 15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu des gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel. » Vous vous rendez compte quel est notre rôle aujourd'hui? De briller dans notre monde comme les étoiles brillent dans le ciel. Alors à Paris, on a des fois un petit peu de mal à voir le ciel bien étoilé. Mais si on va dans la campagne, si on va dans les montagnes, la nuit, on voit un beau ciel noir, on voit beaucoup d'étoiles qui brillent. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel. Et je pense, j'ai déjà partagé avec vous le message des étoiles. Les étoiles dans le ciel, c'est un message silencieux. Elles ne disent pas mot, mais ça parle. Et personne ne peut effacer le message des étoiles dans le ciel. Personne ne peut aller éteindre une étoile. Donc si nous brillons par Jésus-Christ comme ces étoiles dans le ciel, personne ne va nous éteindre. Pour Paul, c'était la même chose. Personne ne pouvait, entre guillemets, l'éteindre. Alors, en conclusion, est-ce que nous sommes prêts à entendre, à apprendre, à recevoir, à passer du temps pour répéter, pour nous concentrer et ensuite pour appliquer? Sommes-nous motivés pour être des imitateurs de Paul, des imitateurs de Jésus-Christ? Puis on peut passer à une question un petit peu plus difficile. Ces caractéristiques que nous voyons dans la vie de Paul, on en a partagé quelques-unes ce matin. Les voyons-nous dans nos vies? Les voyons-nous dans nos vies? Et puis même si on va un pas plus loin, est-ce que je peux dire aux autres? Est-ce que je peux dire aux autres? Est-ce que je peux me mettre à la position de Paul est dire ce que Paul disait. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Est-ce que je peux dire ça? Je ne vais pas vous demander de répondre, c'est quelque chose de très difficile et qui engage beaucoup. Ce que vous avez appris, est-ce que devant le Seigneur on peut, donc en parlant du Seigneur, est-ce qu'on peut dire justement à ceux que l'on croise, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Alors ça peut être à différents niveaux. Ça peut être encore en tant que père, mère de famille, vis-à-vis de nos enfants, en tant que grands-parents vis-à-vis des petits-enfants, en tant que responsable dans l'Église, en tant que membre de l'Église, en tant qu'ancien, en tant que visiteur régulier ou occasionnel de l'Église, en tant que jeune ou moins jeune. Est-ce que nous pouvons nous poser la question et réfléchir juste un petit moment sur cette phrase de l'apôtre Paul ? Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Quand on voit des sportifs qui travaillent avec leurs entraîneurs, leur entraîneur leur dit comment faire les choses et leur montre aussi comment faire certaines choses. Est-ce qu'on peut être aussi à cette même position pour d'autres ? Forcément, nous sommes pris aussi par certaines personnes comme modèles, que l'on le veuille ou pas. Certaines personnes nous regardent. Alors, est-ce que nous avons un problème, un décalage entre ce que nous disons et ce que nous faisons ? Est-ce que nos actes parlent si fort que finalement nos proches n'entendent pas ce que nous disons ? Ou ne voient pas le message de Christ en nous ? Ou s'interrogent sur finalement la pertinence de dire certaines choses à certains moments ? On n'a pas besoin de compter sur nous-mêmes pour aller dans ce chemin, parce que nous n'allons pas pouvoir le faire par nous-mêmes, hein, je vous l'ai déjà dit. L'apôtre Paul nous donne des pistes pour y arriver, et ce qui est intéressant, c'est que le verset 8 de Philippiens 4 nous donne certaines pistes pour arriver à faire finalement que nous avancions dans ce chemin si difficile. Philippiens 4, verset 8, il est dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et donc, ensuite, il vient, parce que lui a mis ça en pratique, et ensuite, il vient avec cette affirmation, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, donc clairement, c'est tout cela, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Donc, que nous puissions, chacun de façon individuelle, nous engager sur ce chemin difficile qui nous demande bien des efforts, mais qui nous conduit dans la présence du Dieu de la paix. C'est ce qu'il est dit aussi dans ce passage de Philippiens 4, 9. Et un peu plus loin, Philippiens 4, verset 13, l'apôtre Paul dit, et nous encourage finalement, parce qu'on se sent bien incapable devant cette tâche, il nous dit, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Donc que nous puissions nous attendre à Jésus-Christ qui veut nous fortifier, pour que nous puissions dire autour de nous, eh bien, vous voyez à travers moi Jésus-Christ, ou que nous puissions être vraiment des témoins fidèles et que les autres puissent apprendre, recevoir, entendre de nous et voir vraiment l'exemple, un exemple, et que nous continuions à marcher sur la voie et à continuer à prendre Jésus-Christ comme le modèle parfait, être des imitateurs de Jésus-Christ, jour après jour. C'est pas facile, mais ô combien c'est encourageant, fortifiant, et c'est clairement l'objectif que nous voulons, ou que je veux, auquel je veux tendre, parce que c'est comme cela que la vie vaut d'être vécue. Amen.